bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Et comment s'effacerait la vision de cet autre cheval? Un Allemand, une bête de selle, magnifique, alezan clair, presque doré, lumineux, des attaches déliées et pures, une encolure gracieuse et souple, des yeux encore ardents, qu'une buée triste commençait à éteindre.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, j'ai relevé avec amusement dans le Figaro du 24 avril dernier l'information que voici. 14 mystérieuses cavalières ont défilé dimanche dans Paris avant de déposer à l'hôtel de ville une supplique au maire. Elles y déplorent que la capitale de la France soit la seule d'Europe d'où les chevaux soient bannis et demandent à Bertrand Delanoë d'autoriser, je cite toujours, la circulation de fiacres et de chevaux montés en des lieux choisis, de faire du cheval, en somme, un outil de service public. Le Canard Enchaîné, relevant cette information 2 jours plus tard, ironisait en réclamant aussi aux écologistes une voie réservée aux chaises à porteurs. Dans les tonalités de la blague, une lumière était ainsi jetée sur la formidable mutation de la place du cheval dans la société des hommes au cours du XXe siècle. Et j'ai pensé que nous pourrions trouver intérêt à remonter plus loin en arrière afin de considérer l'évolution des relations de notre espèce avec le plus remarquable des équidés. Daniel Roche, titulaire de la chaire d'histoire des Lumières au Collège de France et cavalier accompli, s'intéresse à ce sujet depuis belle lurette et je l'ai donc invité ce matin. Il va s'agir de considérer avec lui la façon dont l'homme a lentement conquis le cheval, puis comment celui-ci, au cours des âges, est devenu un enjeu militaire, agricole, culturel et finalement touristique. Je ne sais pas si cette conversation va se conduire au galop, mais je souhaite en cette veille de vacances que l'odeur en soit forte et la musique entraînante.
Coiffé d'un large sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussé de bottes légères, hier dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'étaient les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard, quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il bâillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim, que j'avais plus de pain, j'ai donné un peu de potage. Monsieur, monsieur, chose pareille est anormale. Ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval. 50 ans plus tard, le jockey à ses petits-enfants expliquait aux vieux aventures invraisemblables. Il avait un sourire amer, et comme il se croyait loup de mer, il jurait et crachait à table. Tout en mâchonnant un mégot, il y allait de son bavardage. Il ne parlait que de cargo, de tempête et d'abordage. Mais les petits-enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, s'écriaient grand-père, ce beau pré, c'est-il amer ou Maison Lafitte? Non. grand-père, grand-père, vous oubliez votre cheval. Vous nous menez en bateau, c'est normal, mais vous n'êtes pas amiral. Grand-père, grand-père, jamais vous ne fûtes corsaire. Et vous n'avez connu le mal de mer que lorsque vous montiez prospère. Dites-nous plutôt, comment à plutôt vous avez connu grand-mère. Comment à Paris, le soir du Grand Prix, vous êtes foutu la gueule par terre. Grand-père, grand-père, vous n'êtes pas un vieux loup de mer. Vous n'êtes pas non plus un amiral, vous oubliez votre cheval. Cheval. Grand-père.
Daniel Roche, bonjour.
Bonjour.
J'ai choisi pour ouvrir notre conversation une chanson de Charles Trenet, 1938, parmi un très très grand nombre de chansons consacrées aux relations de l'homme et du cheval. C'est la première période de Trenet. J'aime bien ce ton gentiment onirique, cette sorte de joyeuse désinvolture parfois au hasard de la rime. Vous aussi, vous l'aimez bien ?
J'aime bien cette chanson-là et elle prouve bien qu'en 1938, on n'était pas encore sorti de la période où le cheval était très présent. Était très présent, bien sûr, à la campagne, mais c'est surtout à la campagne qu'on a l'habitude d'évoquer le cheval et c'est une erreur. Il était très présent en ville. Dans mon enfance, dans les années 30-40, Paris était plein de chevaux. Non seulement à cause de la guerre où ils avaient évidemment tenu compte pour remplacer les énergies qui avaient disparu, mais même avant, il y avait les chevaux des laitiers, il y avait les chevaux des compagnies de transport, les grands magasins avaient encore des voitures de livraison avec chevaux, donc ce qui faisait un tout autre univers. Et Trenet évoque évidemment des images un peu surréalistes de cette présence, mais des problèmes réels, parce que qu'est-ce qu'on fait d'un cheval en ville ? C'est tout un système de relations qui a complètement disparu aujourd'hui, mais qu'il faut réimaginer parce qu'il posait quantité de problèmes.
Avec des sons, le bruit des sabots sur les pavés, avec des odeurs aussi.
Au petit matin, on était réveillé par les chevaux des compagnies de laitiers qui portaient les bouteilles de lait et les grands bidons de lait de fer dans les boutiques, et c'était toujours à peu près à la même heure.
Quand à 5h, Paris s'éveillait.
5h, 6h, quand Paris s'éveillait, il y avait ce bruit, et bien sûr les odeurs. Alors dans le fait divers qui est brièvement évoqué par le Figaro et le Canard Enchaîné, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il est vrai que toute une opinion serait partisan de réintroduire le cheval en ville. À la fois parce que c'est un animal sécurisant et du point de vue de la mise en ordre de la foule urbaine, il y a encore dans les grandes métropoles étrangères, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Allemagne, des unités de cavalerie. Mais la France, qui a été un des grands pays de la cavalerie militaire, a abandonné, sauf sous des aspects symboliques avec la garde républicaine, ses unités de cavalerie et les utilise un peu pour faire de la police dans le bois de Vincennes ou dans le bois de Boulogne.
Il n'y a plus
d'unité montée qui rassurerait, parce que c'est un animal, contrairement à ce qu'on peut croire, profondément rassurant et fascinant pour tout le monde. Donc il y a un aspect comme ça qui serait intéressant à exploiter. Et de surcroît, je crois que Paris, quand même, qui a été une des grandes capitales de tous les chevaux et des chevaux sous tous leurs aspects, mériterait de faire une place à une présence qui devrait satisfaire les écologiques. Mais j'ai entendu dire que les écologiques n'en étaient pas partisans parce que ça posait des problèmes, justement, de déchets enlevés, de rapport avec l'automobile. Enfin, que c'était plus compliqué à résoudre que comme je le dis, bien entendu.
Et si je comprends bien, je peux, Daniel Roche, vous rajouter à la cohorte de ces 14 mystérieuses cavalières.
Nous serions 15, sans doute, si je pouvais.
14 plus.
Si 14... le maire me consulte, 14... je lui donnerai mon avis en ce sens.
14 plus 1. Il y a un endroit où les chevaux demeurent, c'est dans les statues. Dans les statues parisiennes, ils sont très très présents. Je m'amusais à partir d'un beau livre qui vient de paraître à l'occasion d'une exposition organisée par l'Action artistique de la ville de Paris, Béatrice de Andia. Je m'amusais à considérer les photographies des statues équestres dans Paris. Il y en a un bon nombre, en fait. Je sais pas si spontanément vous les voyez. Naturellement, il y a les chevaux de Marly qui ont vu passer les chevaux, il y a 14 juillet, de la garde républicaine, des rares chevaux que l'on voit passer à Paris. Les chevaux de Marly de Coustou, 1795.
Oui. Et évidemment, il y a tous les types depuis l'époque moderne, surtout, parce qu'il n'y en a pas avant. Si on voulait des chevaux et des statues équestres, il faudrait aller en Italie, il faudrait aller dans d'autres pays. Mais Colionne, à Paris, depuis la place des Victoires jusqu'au, je crois que c'est le maréchal Foch qui est devant le Trocadéro, et il y en a partout, c'est évident. Il y a même, sans compter la statue de Jeanne d'Arc.
Alors place des Victoires, c'est Louis XIV.
C'est Louis XIV
qui a été réinstallé au moment de la restauration. C'est Bozio, 1822.
C'est une magnifique statue, en tout cas.
Et puis vous avez les statues de la Troisième République. Il y a Charlemagne, 1882, devant
le parvis de Notre-Dame. Mais alors, ce qu'il faut noter, c'est quand même que toutes ces statues présentent généralement des chevaux très calmes. C'est donc un rapport du cavalier représentant le pouvoir politique avec des bêtes qui sont généralement de très gros chevaux. C'est donc des modèles qui sont conformes à toute une histoire de l'élevage et de la production du cheval très proche de nous. Ce ne sont pas les modèles anciens. Et ce sont des bêtes très calmes. Ce sont des bêtes dominées. Et c'est toute une symbolique de la politique et du rapport à la population qui passe par ces statues équestres. On pourrait y revenir.
Et une exception, ce sont les quadriges, les portails monumentaux du Grand Palais, 1900, par Récipion.
Ce sont plutôt des chevaux décoratifs, comme on en trouve dans les grands hôtels baroques ou dans les grands hôtels du classicisme, les magnifiques chevaux d'Apollon à l'hôtel de Rohan, qui sont alors là des démonstrations d'énergie et de violence, qui justement peuvent être présentés en contraste avec ce calme des bêtes dominées par leurs cavaliers ou par leurs cavalières.
Et pour nourrir ce contraste, je vais vous faire entendre la fameuse complainte du petit cheval blanc de Paul Fort, non pas chantée par Georges Brassens, chacun l'a en mémoire, mais récitée, figurez-vous, par Paul Fort lui-même, le prince des poètes.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village à travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, eux derrière et lui devant. Mais un jour, dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni devant.
Donc, contraste entre le cheval lancé au galop, le cheval indompté, et puis le pauvre petit cheval que Paul Fort évoque en récitant son poème dans les années 1950. Je crois que c'est un bon point de départ pour évoquer la manière, Daniel Roche, dont l'homme a progressivement conquis le cheval. Il y a une légende du côté de la roche de Solutré, si chère à François Mitterrand. On a dit longtemps que des chasseurs préhistoriques auraient précipité du haut de la falaise des chevaux sauvages, c'est vrai?
Alors Solutré, ce serait un écho de cette période où le cheval était un prédateur, il s'emparait de pâturages ou d'autres choses, et on le chassait, et évidemment on le chassait pour la nourriture. Nous qui ne sommes plus du tout habitués à manger du cheval, sauf dans certaines régions, ou sauf dans certaines catégories de la population, ça peut nous étonner. Parce que pendant longtemps, le cheval a fourni une partie de la nourriture des premiers hommes.
Les boucheries chevalines sont de plus en plus rares en France.
Les boucheries chevalines déclinent, mais il y a des régions d'Europe, par exemple le nord de l'Italie reste une région d'hypophagie. Et c'est un des grands problèmes de pourquoi on ne mange pas de cheval. Est-ce que c'est parce qu'on s'est tellement incarné dans l'animal, reconnu en lui, qu'on y a vu tout de suite un tabou? On a parlé aussi de tabou religieux, rien n'est très clair là-dedans. Ce qui est certain, c'est que la réapparition autorisée de l'hypophagie, puisqu'il y a eu des moments où elle était interdite, a coïncidé avec une réflexion sur la mort de l'animal. Et le poème de Podefort, qui en quelque sorte évoque cette familiarité, est intéressant de ce point de vue-là. Parce que le rapport à l'animal passe aussi par qu'est-ce qu'on fait de lui quand il arrive à sa fin et quand on a, si on peut dire, à s'en débarrasser. Donc il y a toute cette réflexion et l'hypophagie a été liée à une, en quelque sorte, un apprivoisement de la mort de l'animal dont on voulait améliorer les conditions et en même temps, parallèlement, donner de la nourriture aux classes populaires. Et on voyait dans le cheval un moyen de transmettre une énergie. Donc c'est un raisonnement totalement analogique et symbolique. Oui. Il transmettait une énergie. Le sang du cheval était donné dans la lutte contre la tuberculose aux dames de la haute société et de la moyenne société. J'ai une grand-mère qui était malade des poumons et on la conduisait aux abattoirs de Vaugirard.
C'est grâce à ça
boire que... pour boire du sang de cheval.
C'est grâce à ça que je vous ai aujourd'hui devant moi. Ça.
Exactement, exactement.
Merci au cheval.
S'il n'y avait pas eu ces thérapeutiques un peu sans doute sauvages, mais peut-être en partie efficaces parce que ça donne... sans doute quelques compléments alimentaires, mais personne n'y croit plus.
Le Collège de France et moi-même, nous nous en réjouissons.
Bah, c'est un peu un aspect anecdotique de ces grands moments de l'histoire de l'alimentation, de l'histoire du rapport à l'animal.
Alors, quels étaient les facteurs ? Il y a eu des facteurs finalement qui ont été favorables à la domestication. On nous dit toujours que le cheval serait à la fois curieux et gourmand, et que ce sont deux traits de son comportement qui auraient été favorables leur venue à sa domestication.
Je n'y crois pas beaucoup parce que ça fait partie de cette anthropomorphisation totale de l'animal qui fait que l'on va lui prêter des caractères humains alors qu'en fait, ce qui s'est façonné, c'est un rapport à travers d'abord une grande relation de violence, malgré tout. Il a fallu intervenir dans sa sélection, il a fallu le dompter, puisque c'est un animal qui est tout aussi craintif, peureux, extraordinairement grégaire, et qui avait toutes les capacités de vitesse et de frayeur instinctive qui lui restent encore aujourd'hui. Après 4000 ans de domestication, vous n'êtes jamais sûr dans la nature de ce que peut faire un cheval. Tout d'un coup, il peut partir des quatre pieds et vous balancer en l'air, parce que quelque chose lui aura fait peur, et ce n'est pas si facile que ça de savoir qu'est-ce qui lui fait peur.
C'est le principe des jeux du Far West.
C'est un petit peu l'un des principes, oui, du rapport des cow-boys au domptage. Mais là, alors on entre, pour dompter l'animal, il a fallu véritablement inventer une relation très très violente. C'est ce qui distingue les peuples occidentaux qui s'interrogent sur cette relation du dressage, alors que les peuples cavaliers de l'Asie, où toutes les techniques d'équitation ont été mises au point les unes après les autres, tout vient de là, du centre de l'Europe orientale et du nord des montagnes himalayennes à travers toutes les grandes plaines de l'Asie, tous ces faits-là, ce sont des peuples qui sont d'une brutalité totale avec les chevaux, comme d'ailleurs un peu toutes les populations qui utilisent le cheval pour le travail et qui ne peuvent pas admettre qu'un cheval puisse être rétif. Parce que c'est la vie du cavalier qui est en danger, c'est le résultat de l'utilisation qui est compromise. Donc le domptage élimine toutes les bêtes qui sont dangereuses et rétives. Et par sélection, ça fabrique des individus qui sont plus soumis et plus domptés et plus faciles à dresser, à accommoder à diverses tâches.
On est loin de mon ami Flicka.
On est totalement loin de mon ami Flicka. D'ailleurs, le petit cheval de Podefort est un peu une invitation allégorique à célébrer le culte de l'animal, alors que dans la société rurale coïncident les deux attitudes. Une attitude de violence dont vous pouvez trouver écho, par exemple, dans un conte de Maupassant qui s'appelle Isidore Coco. C'est l'histoire d'un jeune valet de ferme à qui on confie le travail de surveiller un très vieux cheval dont la patronne de la ferme ou du manoir, je ne me rappelle plus très bien, ne veut pas se débarrasser. Elle veut conserver cet animal fidèle et elle le met au pâturage.
Pour des raisons affectives.
Pour des raisons d'affection. Donc l'affection peut exister. Mais le petit valet, lui, juge que son statut de s'occuper de cette bête qui est complètement décatie, qui ne sert plus à rien et qu'il faut mener le matin au pâturage, nourrir, etc., est absolument intolérable pour lui. Alors il se comporte avec ce pauvre cheval avec une dureté incroyable. Progressivement, il lui réduit sa nourriture. Et un matin, on trouve le pauvre cheval mort et on l'enterre sur place. Et comme dit Maupassant, l'herbe pousse plus drue sur cette tombe.
Le trépas de Coco.
Voilà, c'est...
Ça renvoie presque à Baudelaire, la servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, on pourrait presque...
On est dans un univers où effectivement on prête à l'animal des sentiments qui n'existent pas. Il y a une intelligence de l'animal, mais c'est une intelligence totalement spécifique. Il y a des qualités de psychologie, on peut dire. On ne peut pas nier ce genre de choses. Par exemple, les chevaux ont une mémoire assez extraordinaire et ils savent percevoir des choses que les cavaliers connaissent très bien. Par exemple, quand on entre dans une stalle de cheval, il vaut mieux avoir une certaine autorité que de présenter des signes de frayeur, parce que les chevaux adorent se moquer de vous. Quand on a une certaine familiarité, on rencontre des cas comme ça. C'est pas tous les chevaux. Il y a des chevaux drôles. Il y en a qui ne le sont pas, il y a des chevaux intelligents, il y en a qui ne le sont pas. Donc on ne peut pas nier ces choses, mais ça n'établit pas forcément cette relation sensible, agréable, que l'on voudrait avoir, parce que c'est une bête qui est d'une énergie terrible. Ça pèse 500 kilos. Tout cavalier qui tombe et qui reçoit ses 500 kilos sur le dos sait ce que ça veut dire.
C'est votre expérience ?
Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui.
C'est du manège au Collège de France et retour. L'éventail est très large, en somme, depuis la brutalité du rapport jusqu'à la tendresse un peu mièvre qu'on trouve pour les enfants de la bourgeoisie au XIXe siècle. Écoutez cette chanson de Patrice et Mario de 1950.
Mon petit cheval blanco, te souviens-tu de mes 12 ans? Quand tous deux gaiement nous partions au trot par les sentiers de mes rêves d'enfant. À cheval je devenais aussitôt tous les héros du Palo Pancho. Un chapeau de paille pour sombrero, à la ceinture un revolver à eau. En avant mon petit blanco, en avant prend ton galop, j'aperçois près du rancho des voleurs de chameaux. En avant mon petit blanco, nous les prendrons au lasso, et la fille du rancho nous donnera de bégots. Mon cheval, mon petit cheval blanco, le temps a fui et j'ai 20 ans. Tous les deux gaiement nous partons au trot par les sentiers de l'amour à présent. Aujourd'hui j'ai mis mon beau sombrero, tout le pays fait chanter les banjos. Car pour de bon, mon amigo, j'épouse Nina, la fille du rancho. En avant mon petit blanco, en avant prends ton galop, car tout le monde au rancho nous attend pour bientôt. Les parents, les amigos, muchacha et muchacho, le bon curé Domingo et la fille du rancho. En avant mon petit blanco.
Avec le petit blanco de Patrice et Mario, Daniel Roche, on est loin du farouche Mustang.
On est loin du Mustang, lequel est d'ailleurs un cheval qui est tout à fait intéressant, puisque c'est, on croit maintenant pouvoir dire qu'il y a eu des chevaux en Amérique il y a très 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 longtemps, mais qu'ils ont disparu ou qu'ils ont émigré, on ne sait trop, et on voit réapparaître le cheval sur le sol américain, avec évidemment la colonisation, l'arrivée de Christophe Colomb et le développement de la colonisation hispanique.
À Saint-Domingue, en 1493, arrivée.
Alors une douzaine d'étalons et quelques juments. C'est très curieux d'ailleurs. On ne parle que des étalons, mais on ne parle pas des juments.
Il
fallait les deux. Oui, si on voulait mettre à la disposition des futurs colons et des futurs occupants d'origine espagnole, des chevaux en nombre suffisant, il fallait les deux. La question est intéressante parce que qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas très bien quels sont les chevaux qui sont arrivés à cette époque en Amérique. C'était vraisemblablement des chevaux de, sinon de race espagnole, au moins de ce mélange de races qui pouvait équiper la cavalerie des conquistadors et qui étaient capables quand même de porter des cavaliers assez lourds puisqu'ils étaient réservés au départ tout au moins uniquement aux chefs de la colonisation ou de la conquête.
Et on constate que assez vite les Amérindiens eux-mêmes ont en quelque sorte retrouvé le cheval.
Cheval s'est répandu absolument tout de suite, et d'autant que, en toute apparence, les conquérants espagnols n'ont pas trop surveillé cette expansion, qui évidemment pouvait immédiatement donner aux Indiens, et c'est ce qui s'est passé dans les grandes plaines de l'Amérique du Nord, la possibilité de faire une véritable nouvelle civilisation du cheval, qui s'est débattu et qui a combattu la civilisation blanche pendant plusieurs centaines d'années.
Voici les westerns.
Nous arrivons au Mustang, nous retrouvons le Mustang. Le Mustang, c'est le produit de c'est ce qu'on appelle un cheval marron, c'est-à-dire un cheval échappé de l'élevage contrôlé et de la domestication et de l'utilisation contrôlée.
Alors on croit parfois que ce sont des chevaux sauvages qui remontent à des temps immémoriaux, alors qu'en réalité les chevaux sauvages à proprement parler ont disparu il y a longtemps et que ce sont de faux chevaux sauvages, ce sont d'anciens chevaux domestiqués qui ont retrouvé l'état sauvage.
C'est ce bien sont ça les résultats des chevaux échappés. Mais il faut là réfléchir à ce que représente le temps. Pour nous, une génération, c'est à peu près 30 ans. Pour un cheval, c'est entre 10 et 15 ans. Donc vous voyez que l'accélération n'est pas du tout la même et que dans les grandes plaines d'Amérique, l'expansion a dû être absolument extraordinaire. Ça a été une espèce d'explosion et chacun, enfin, a eu son utilisation. La civilisation mexicaine du cheval est une civilisation tout à fait extraordinaire puisqu'encore aujourd'hui, elle donne lieu à des manifestations d'un machisme absolument effréné. Il faut porter des éperons de 15 cm de grandeur. On a des grands sombreros. D'où tous ces stéréotypes qui apparaissent dans nos chansons, qui apparaissent dans nos romans ou dans nos films, viennent de ça, viennent de cet espace de reconquête. C'est pas tout à fait ce que nous avons connu dans les espaces occidentaux. D'ailleurs, pendant longtemps, les cavaliers français méprisaient beaucoup ceux qui montaient en cow-boy, comme on disait. Maintenant, cette opposition est un peu terminée parce que le tourisme équestre a pris la place des manifestations cavalières sélectionnées, etc. Mais c'était une de ces oppositions qui était très importante.
Alors, je voudrais que nous en venions à la question de l'utilisation, la diversité des usages des chevaux par les hommes. Le cheval a pu servir à se déplacer, faire la guerre, on va y revenir, mais assez vite, il a servi aussi à l'agriculture.
Le point de départ le plus vraisemblable, c'est l'utilisation pour le char, mais pas forcément pour l'agriculture. Pour l'agriculture, au départ, c'est le portage des choses, le portage des charges, et en même temps, avec une certaine accélération et une grande diffusion, tout le problème étant de comprendre la dispersion à travers l'Europe de ces différentes inventions techniques qui ont certainement été apprivoisées, transférées à travers tout un système de modification du système agricole. Le char a d'abord été un char de guerre. C'est comme ça qu'il apparaît dans les représentations, c'est comme ça qu'il apparaît dans la littérature.
Et la fameuse grande bataille de Kadesh en 1285 avant Jésus-Christ sur l'Oronte avec les Égyptiens contre les Hittites.
C'est contre les Hittites, oui, ce sont des affrontements de chars compliqués avec des guerriers qui tirent à l'arc ou des guerriers qui lancent des javelots et qui s'affrontent. On se demande comment ça pouvait marcher, mais enfin, ça marchait certainement pas tout à fait comme on le reconstitue dans les films.
Mais des représentations de l'époque.
Il y a quand même quelques fresques,
Ou Ramsès II entraînant ses chars contre les Hittites.
Et après, un peu plus près de nous, du côté d'Alexandre, du côté de ces grande rencontre, il y a quelques représentations. Il y a des représentations beaucoup dans les vases aussi. C'est toute une iconographie qui sert à montrer cela. Mais le problème de l'attelage, c'est comment il fonctionnait. Et à partir de ce moment-là, on entre dans cette grande série de questions qui ont été discutées pendant très longtemps, des années 1920 jusqu'aux années 1950, en gros, qui étaient en fait la manière dont, avec la domestication, on a rendu le cheval de plus en plus producteur d'énergie. Et ici, ce qui a été fondamental, c'est l'utilisation pour l'agriculture.
Alors ça, je sens que vous allez introduire dans notre conversation le commandant Lefèvre des Noëttes.
Alors, le commandant Lefèvre des Noëttes, dès 1924, puis après, dans un autre livre des années 30, a soutenu une thèse qui est maintenant, je crois, non seulement discutée, mais en grande partie abandonnée, c'est que l'introduction du collier d'épaule dans la civilisation occidentale entre le 5e, 6e siècle et jusqu'au 10e, 11e siècle a accéléré la disparition définitive du servage.
Vous expliquez qu'avant
le système de collier souple, mais qui portait sur la gorge des chevaux, ne pouvait pas être totalement efficace, puisqu'à partir d'un certain moment, la charge à tirer était plus forte que l'énergie que pouvait dispenser le cheval, donc il y avait un effet d'étouffement. En réalité, ce collier de gorge apparaît, il a été certainement utilisé, mais il n'était pas du tout le seul. Il y avait des tas d'appareillages qui liaient le cheval au char, qui liaient le cheval à la charrue, dont en particulier des espèces de joues, et puis surtout des formes de bricoles, c'est-à-dire des colliers souples qui passent sous le poitrail et qui sont encore en service, si vous regardez les manifestations d'attelage, dans beaucoup d'attelages. La bricole a permis, comme ça, de tirer des charges de plus en plus lourdes, et c'est une adaptation de la bricole au système d'entraînement des véhicules qui a favorisé, en quelque sorte, de la transformation, et pas le seul collier d'épaule. Le collier d'épaule a permis l'accélération de la vitesse et de l'efficacité du labour. C'est-à-dire en attelant des chevaux plus forts avec un collier d'épaule à une charrue perfectionnée, qui n'était plus la vieille arrière sans roue, mais une charrue avec roue, on a facilité l'expansion de la nouvelle culture et plus particulièrement de la culture avec l'assolement céréalier que nous avons appris dans notre jeunesse. C'était un des grands moments de la démonstration de la géographie et de l'histoire agraire.
Sur ce point-là, nous laisserons nos auditeurs en état de frustration parce que je voudrais que nous en venions, Daniel Roche, à la question du cheval et de la guerre. Et je vais prendre les choses à l'envers. En évoquant 1914-18, c'est la dernière grande guerre où le cheval a joué un rôle essentiel. Songeons que 700 000 chevaux sont morts à la guerre du côté français. Et comme si souvent dans ce domaine, le mieux est de donner la parole à Maurice Genevoix. C'est un récit qu'il a donné spécialement pour la radio et qui remonte à 1971, à propos de sa grande guerre à lui.
Mort ou vivant, que de visages inoubliés. J'ai voulu dire aussi la passion des bêtes dans la guerre, des chats errants, des vaches perdues, et sur tous les autres, des chevaux. Du vieux cheval gris des éparges que j'ai sauvé pour quelques jours, de celui qui criait dans la nuit en avant du bois de Saint-Rémy parmi les blessés abandonnés. Brancardier, appelaient les Français, et les Allemands, Hilfe, Hilfe. Et puis cette longue plainte ululante, pathétique, comme les voix des hommes. Et comment s'effacerait la vision de cet autre cheval, un Allemand, une bête de selle, magnifique, alezan clair, presque doré, lumineux, des attaches déliées et pures, une encolure gracieuse et souple, des yeux encore ardents, qu'une buée triste commençait à éteindre. Dans la forêt où pénétrait la route, la fusillade crépitait, étouffé par l'épaisseur des arbres. Les premières balles achèlent Tailly. Nous venions de prendre la formation d'approche en file indienne dans les fossés. Lui, il était debout au milieu de la chaussée, seul dans la pleine clarté entre les deux franges d'ombre où glissaient ces hommes furtifs. Je me suis retourné pour revoir cette créature splendide, pour l'admirer une fois encore, étreint par une angoisse où l'imminence du combat n'était pas seule à me serrer le cœur, car une de ses jambes de devant, déchirée à hauteur du poitrail, ruisselait de sang jusqu'au sabot. Par une artère ouverte, ce flot rouge affluait sans trêve, inépuisable, et tachait la route à ses pieds. Quand se coucherait-il dans ce sang, cheval mort au milieu de la route?
Alors, Daniel Roche?
Bien, l'émotion de Genevoix est très compréhensive, parce que c'était, si je me souviens bien, un jeune lieutenant d'infanterie, mais à cette époque-là, les officiers de l'infanterie française étaient tous dotés d'une monture et ils accompagnaient leurs colonnes en avant ou aux côtés sur leurs chevaux. Et il y avait une relation particulière de tous les officiers qui n'était pas d'ailleurs réservée à la cavalerie, sur lequel il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire. Ce que je retiendrai de Genevoix, là, c'est sa magnifique impression de douleur qu'il admet par rapport à l'animal. Et ça a été véritablement un grand massacre de chevaux.
Lien affectif très fort.
Et avec un lien affectif très fort. C'est certain que la cavalerie et les officiers montés ne pouvaient pas avoir... avec leurs montures, le même rapport que d'autres. C'était obligatoirement une sorte de proximité qui les obligeait à l'attention, même si cette attention pouvait être plus ou moins néancée. Mais là, on est entré dans une grande tradition littéraire, c'est-à-dire il y a depuis fort longtemps une évocation de ces combats et de cette présence du cheval et du chevalier qui a commencé dans la littérature française médiévale avec les conteurs et avec les grands premiers grands romans médiévaux.
Roland.
Et qui sait, oui, la chanson de Roland et tous ses cycles, et qui sait continuer à travers la grande poésie baroque et le grand romanesque baroque avec l'Arioste et avec tous ces grands textes qu'adoraient nos prédécesseurs, mais que nous ne lisons malheureusement peut-être plus beaucoup parce que nous n'avons plus tout à fait la même culture.
Là, Cervantes.
Cervantes donne avec le cheval Rocinante une autre image de ce rapport, et elle est continuée à travers tout le XIXe siècle. On en trouve chez tous les grands écrivains. Tolstoï a consacré un petit roman à ses chevaux. Dostoïevski parle des chevaux au bagne. Tourguenieff, je cite cela parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils sont les héritiers de ces peuples orientaux qui ont été ce que Jean-Pierre Digard appelle fort justement les peuples cavaliers. Et les peuples cavaliers ne sont pas tout à fait les peuples d'écuyers, les sociétés d'écuyers qui sont les nôtres. Pourquoi ? Parce que les peuples cavaliers ont eu un rapport de proximité à l'animal lié à l'abondance de chevaux. Jusqu'au XIXe siècle et au XXe siècle, on a constaté cette différence. Clausewitz disait, dans son grand traité de la guerre, ce sont les héritiers des Tartares, ces peuples-là. Et effectivement, il y avait cette abondance de chevaux qui faisait qu'ils avaient un rapport constant à l'animal, qu'ils les entretenaient, qu'ils nouaient un type de relation qui n'est pas du tout le même. Nous avons une relation qui, depuis le Moyen-Âge, est une relation réservée à une catégorie de la population qui a été en partie sélectionnée justement par l'art militaire.
On pourrait citer un autre très beau texte de la littérature française, c'est le Milady de Paul Morand.
Le Milady de Paul Morand qui met en scène, alors de manière absolument extraordinaire,
un homme déçu par les femmes et amoureux des
et amoureux de sa jument, qui a trouvé dans sa jument son idéal féminin. Mais en même temps, c'est une sorte d'analogie de ce qui se passe dans la relation qui est peut-être celle des écuyers du cadre noir. Il faudrait les psychanalyser, là, pour savoir s'ils sont d'accord avec Morand ou pas. Mais pour aboutir à ça, on peut aller jusqu'à Claude Simon, qui est mort l'an passé et qui a laissé des derniers combats de la cavalerie française en 1940 une image beaucoup plus intéressante que l'image légendaire et complètement fabriquée, comme on le sait maintenant, des lanciers polonais, qui est une image de propagande reconstituée après, post hein, après les événements pour exalter la cavalerie polonaise et qui ne correspond pas du tout à la réalité.
Vous parlez de quelle année, lanciers polonais?
1939.
C'est ça, les débuts de la guerre.
Débuts de la guerre où on a toujours cru qu'il y avait eu ces grandes charges de la cavalerie polonaise contre les panzers. En réalité, les historiens polonais savent que maintenant c'est un film de propagande et que ça a été reconstitué. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des engagements de cavalerie.
Et là, c'est une très 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 longue continuité parce qu'en gros, Daniel Rochon, on peut dire que la cavalerie, constituant une arme déterminante, cela remonte au début du premier millénaire avant notre ère, avec des usages très différents, la cavalerie lourde d'un côté, la cavalerie caparaçonnée, et puis la cavalerie légère.
Là, nous retrouvons notre problème technique de base, c'est-à-dire qu'est-ce qui a permis, justement, au lieu d'un usage léger de la cavalerie qui était l'usage du harcèlement des Tartares et des Huns quand ils ont commencé leur progression vers l'Occident, on a mis en place une cavalerie lourde qui était permise et qui a été développée. Au début, d'ailleurs, c'était une cavalerie sans écuyer, mais avec la selle à harçon. La selle à harçon qui donnait un équilibre à des cavaliers lourdement armés et à l'usage de la lance. Il faut imaginer ce que devait être une charge avec la lance quand on ne disposait pas d'étrier pour s'appuyer et qui a monté sans pédale, comme on dit maintenant de manière argotique, et qui a monté avec pédale peut mesurer quand même toute la différence de ce grand changement technique.
Historiquement, le premier grand choc, semble-t-il, c'est celui d'Alexandre de Macédoine et des siens découvrant avec stupéfaction du côté de Darius, le roi de Perse, c'est cette cavalerie de choc avec ses lourds...
Avec ses cataphractes, qui étaient...
Cataphractes, ça veut dire cuirasse en grec?
Qui étaient cuirassés. Et alors, à partir de ce moment-là, on a les deux types de cavalerie. Les sociétés cavalières favorisant plutôt la cavalerie légère de harcèlement... Et l'islam a été l'un des vecteurs de la transmission de cette cavalerie légère à travers l'Afrique du Nord, l'Espagne et l'Europe, 732, la grande rencontre de Poitiers. Et à partir de là, l'affrontement s'est fait, s'est continuellement fait entre les deux types d'utilisation du cheval lourd ou du cheval léger. En réalité, si vous voyez par exemple le grand monument documentaire qu'est la tapisserie de Bayeux, c'est-à-dire 10e siècle, conquête de l'Angleterre, 10e, 11e siècle, hein, c'est 1066 si je me rappelle bien, la tapisserie donc est postérieure. Donc dans la tapisserie vous voyez les deux types de cavalerie, vous voyez les premiers cavaliers lourds avec selle à harçon, avec des étriers et avec la lance, et à côté de ça vous voyez des cavaliers légers qui sont des lanceurs de javelot ou comme l'était dans la steppe, des tireurs à l'arc. La cavalerie mongole était quelque chose d'absolument formidable parce qu'ils étaient capables de décocher une flèche qui transperçait un bon pan d'armure à quelques 70 ou 100 mètres. Et c'est très intéressant de voir que pendant la guerre du Vietnam et la guerre actuelle, la cavalerie américaine, qui est maintenant une cavalerie aérienne puisqu'elle est à base d'hélicoptères, s'est mis à réétudier les premiers témoignages et les premiers textes de transmission de cette cavalerie mongole pour réutiliser la tactique des Mongols sur le système, l'expression américaine est « breaking the phalange ». C'est-à-dire, il fallait casser par l'encerclement et le tournoiement les masses compactes de l'adversaire.
À la bonne heure, voilà une magnifique concordance des temps qui a surgi à un moment pour moi inattendu. Ça marche?
Je ne sais pas si on peut considérer que le Vietnam est une grande victoire militaire de la cavalerie américaine. En tout cas, en Irak, ça n'a pas l'air de marcher fort.
Alors, dernier moment de notre conversation, Daniel Roche, si vous voulez bien, je voudrais que nous en terminions sur le cheval comme enjeu culturel. Et bien sûr, nous allons retrouver toute la réflexion sur le regard que l'homme jette sur le cheval. Et là, je crois que je vous devais de vous faire entendre la voix de Buffon.
La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Aussi intrépide que son maître, le cheval voit le péril et l'affronte. Il se fait au bruit des armes, il l'aime, il le cherche et s'anime de la même ardeur. Il partage aussi ses plaisirs, À la chasse, au tournoi, à la course, il brille, il étincelle. Mais docile autant que courageux, il ne se laisse point emporter à son feu. Il sait réprimer ses mouvements. Non seulement il fléchit sous la main de celui qui le guide, mais il semble consulter ses désirs. Et obéissant toujours aux impressions qu'il en reçoit, il se précipite, se modère ou s'arrête et n'agit que pour y satisfaire. C'est une créature qui renonce à son être pour n'exister que par la volonté d'un autre, qui sait même la prévenir, qui par la promptitude et la précision de ses mouvements l'exprime et l'exécute, qui sent autant qu'on le désire et ne rend qu'autant qu'on veut, qui se livrant sans réserve ne se refuse à rien, sert de toutes ses forces, s'excède et même meurt pour mieux obéir.
C'est un rudement beau texte, n'est-ce pas, de Daniel Roche-Buffon, des années milieu du XVIIIe siècle, lu par Louis Comte, qui est sociétaire de la Comédie française, deux siècles après, dans les années 50.
C'est un texte d'autant plus beau qu'il est un grand tournant de la relation au cheval. Buffon, qui était directeur des jardins du roi, grand savant, et qui commençait l'histoire générale des animaux, puisque ce texte est au premier tome, je crois, de l'histoire naturelle des animaux, a donné là la première place dans la description générale des animaux au cheval. Et il l'a complètement présenté sous un double caractère. Premièrement, il lui prête des sentiments qui sont totalement des sentiments humanisés. C'est une vision anthropomorphique de l'animal qui montre bien quel type de relation on imaginait nouer avec la bête.
Oui.
Et deuxièmement, il en présente une version au départ complètement aristocratique. C'est-à-dire, c'est le cheval de guerre, le cheval des plaisirs, de la chasse et des tournois, donc des joutes équestres, c'est le cheval d'une catégorie sociale.
Pas
et
de percheron,
c'est
pas de percheron.
Le symbole, oui, d'une certaine activité qui laisse de côté le cheval de travail. Mais il faut lire le texte, bien sûr, de Buffon en son entier, et Buffon donne toute sa place aux autres formes d'utilisation du cheval, et c'est lui en particulier qui dit que Paris, c'est l'enfer des chevaux. Que la ville est un univers qui mange et qui dévore les animaux, parce que finalement, je crois, et que c'est un renversement en quelque sorte historique qu'il faut faire, c'est que les grands changements qui se sont produits, que vous avez évoqués dans le domaine de la relation, en particulier scientifique ou de la description, ils se sont faits à cause de l'utilisation urbaine. Cela repose en quelque sorte sur deux phénomènes. Premièrement, ce sont les villes qui ont demandé de plus en plus d'énergie pour les transports et de plus en plus de chevaux pour leur utilisation pratique et quotidienne. Et deuxièmement, ce sont dans les villes que se sont codifiées les images et les rapports aux chevaux qui ont constitué notre relation à la société.
Donc ambivalence des villes quant à l'histoire des relations entre l'homme et le cheval. Il faudrait peut-être le rappeler aux 14 mystérieuses Amazones que nous évoquions tout à l'heure.
Évidemment, la question est que la relation est utilitaire, mais en même temps elle produit des effets symboliques qui sont des effets extraordinairement pesants et qui ont guidé en quelque sorte la tradition du rapport au cheval jusqu'à nos jours. La présence de la cavalerie par les garnisons. Les chevaux ne sont pas à la campagne, les chevaux militaires, ils sont dans des casernes de cavalerie qui ont été implantées dès la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle. Avoir une garnison de cavalerie, c'est une sociabilité. Lunéville, à la veille de la guerre de 14, c'est une ville absolument extraordinaire parce qu'elle vit uniquement de la présence de ses régiments de chasseurs, de la présence de ses régiments de cuirassés, de la puissance de tous ses chevaux, avec toutes les manifestations de société qu'on peut imaginer.
D'ailleurs, Lucien Leven, on se le rappelle, tombe de cheval pour son malheur ou pour son bonheur.
Sous les fenêtres de Madame de Chastelet à Nancy. Et Nancy est une autre de ces garnisons où la vie était rythmée en partie. Alors là, pour revenir à la question qui est derrière, c'est-à-dire notre tradition de société d'écuyer à jouer de tous ces symboles qui sont des symboles maniés et construits pour les élites urbaines et pour les élites aristocratiques. Et cela a fonctionné pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Apprendre à monter à cheval dans les années 1940-1960, c'était être élève d'écuyer qui venait pour la majorité après un passage dans l'armée et qui avait été nourri aux normes de la transmission de l'équitation militaire, même si celle-ci avait changé.
Donc il y a... C'est dans ces conditions que vous avez appris vous-même à monter? Dans ce cadre-là, Daniel Roche?
Je crois que l'un de mes instructeurs, monsieur Bouette Villaumet, était un ancien officier ou sous-officier de cavalerie. Et d'ailleurs, c'était un très bon pédagogue. Ce qu'on apprenait avec certains de ces gens-là n'était pas forcément la rudesse de taper dessus, rentrer dedans, qui est l'expression qu'on rappelle traditionnellement.
Ça a beaucoup évolué. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine féminisation, peut-être un peu surprenante, des classes où on apprend à monter?
À l'heure actuelle, d'abord, il y a un accroissement considérable des praticiens. Cet accroissement se fait par la reconnaissance de pratiques qui, justement, dans ces années tournantes que je viens d'évoquer, n'étaient pas du tout admises ou étaient complètement ignorées ou déconsidérées.
Il y a un ressurgissement.
Il y a eu on peut le dire entre guillemets, parce que le mot vaut ce qu'il vaut, une démocratisation de la pratique du cheval, mais cette démocratisation se fait par le biais de la féminisation des cavaliers. Il y a deux siècles, les académies d'équitation accueillaient la jeune noblesse et les élites notables, fortunées, qui donnaient à leurs enfants la capacité de monter à cheval de façon d'abord élémentaire et pour certains d'une manière significative, parce que c'était leur être social qui apparaissait au terme de cette éducation. Aujourd'hui, c'est totalement différent.
Lorsque j'appris par le journal qu'à la loterie nationale, mon 10e inopinément était remboursé par 20 francs, j'ai ressenti une émotion. Que ferais-je de tout ce pognon? C'est trop d'un coup, c'est anormal. Alors j'ai acheté un cheval. C'est un cheval de course, il est tout mon orgueil. Il faut le voir courir sur le parcours d'Auteuil. Hop, hop, quel miracle! Il boit tous les obstacles. Ce n'est pas un cheval, c'est une locomotive. Derrière lui, tous les autres s'en vont à la dérive. Hop, hop, qu'il est beau, il a le feu au sabot. Mon cheval, il s'appelle Hannibal. Mon cheval, il est phénoménal. Au départ, je suis fier, il est toujours en tête. Oui, mais à l'arrivée, je tremble des lorgnettes. Hop, hop, drôle de bête, il est 7e sur 7. Ce cheval est un humoriste, il ne doit pas aimer la piste. En courant, il fait des petits pets et désarçonne son jockey. Il s'arrête près de la rivière pour voir les autres tomber par terre et joyeux rentre à l'écurie, me faisant perdre tous mes paris. C'est un cheval de course, il est tout mon orgueil. J'ai dû le retirer, il n'est pas pour Auteuil. Hop, hop, que m'importe, il faut qu'il me rapporte. Je le loue à un cirque, il aime la musique. Il fait sur des tambours 1000 pas excentriques. Hop, hop, à minuit, il rentre à mon logis. Mon cheval, il s'appelle Hannibal. Mon cheval, il est phénoménal. Il fait le boogie-woogie et du swing pour finir. Et jusqu'au petit jour, gonflé de souvenirs. Hop, hop, quel délire, il m'empêche de dormir. J'ai tout fait pour le stimuler. Je l'ai traité de dégonfler. Il s'en est fichu royalement, lui qui m'a ruiné totalement. C'est alors qu'à la foire aux puces, j'ai acheté un vieil omnibus. Dans les brancards, je l'ai logé et je suis devenu son cocher. C'est un cheval de course, il est tout mon orgueil. Je vais tous les dimanches de l'Étoile à Auteuil. Hop, hop, quelle affaire, ne ratons pas la première. Je transporte les joueurs, c'est 100 francs du parcours. Quand j'en fais 5 ou 6, c'est 3000 balles par jour. Hop, hop, et je pense, grandeur et décadence. Bon cheval, tu t'appelles Hannibal. Bon cheval, jamais tu ne t'emballes. Et lui a l'air de me dire, avec son gros œil rond, c'est bien la première fois que ton vieux canasson, hop, hop, grand couillon, te rapporte du pognon.
Quel délire, chante Georgius. Voilà, survenu la question des courses. Est-ce que d'ailleurs les parieurs s'intéressent vraiment aux chevaux eux-mêmes? Je ne sais pas.
Mais il y a deux catégories de parieurs. Il y a ceux qui ne vont jamais sur les champs de courses et qui finalement travaillent sur les journaux et sur les informations qui circulent dans le milieu des parieurs.
Paris
et
turf.
Qui, avec le tiercé ou le quarté ou tout ce que l'on peut imaginer entre le spectacle télévisuel qui est quelquefois très suivi. Et ceux-là, ils utilisent les chevaux comme un instrument. Alors l'histoire et les autres, alors ce sont ceux qu'évoquent très bien la chanson et que l'on voyait encore aller en omnibus ou en autobus spécialisé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est ceux qui vont sur les champs de course.
C'est 1954 la création du tiercé.
Le pari mutuel, c'est 1860. L'inventeur du pari mutuel est un génie parce qu'il a permis à l'État de redistribuer une partie de ce qui était gagné par les enjeux sur l'élevage. Ce qui fait que, à un moment où l'élevage français était sérieusement en difficulté, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le pari populaire a sauvé, en quelque sorte, l'élevage aristocratique et l'élevage des purs sang anglais.
Aujourd'hui, en Angleterre, la loterie nationale sert à sauver le cinéma. Mais là, c'était plus directement dirigé vers les chevaux eux-mêmes qui couraient.
Sur la redistribution, oui. Mais vous savez, encore dans les années 70, c'était 6 ou 7 milliards d'euros qui étaient engrangés par le pari mutuel.
En France ?
En France, oui. Et c'était près de 10 millions de spectateurs. Donc c'est quand même un phénomène absolument étonnant qui a été mis en place au début du 19e par Napoléon, qui a survécu à tous les régimes, et qui n'est pas prêt de disparaître.
Merci beaucoup, Daniel Roche. Nous n'avons pu qu'effleurer cet immense sujet, mais je pense que nous avons ouvert des pistes de réflexion. Votre grand livre consacré à la circulation des hommes et l'utilité des voyages, qui s'appelle « Humeur vagabonde », publié il y a 3 ans, en 2003, chez Fayard, voit évidemment passer dans ces pages, dans ces très nombreuses pages, un millier de pages, voit passer beaucoup de chevaux. Je voudrais rendre hommage aussi à un auteur que vous avez cité, chemin faisant, qui est Jean-Pierre Digard, qui a donné le petit volume consacré au cheval, Cheval, force de l'homme, dans la collection La Découverte chez Gallimard, 1994. Rendre hommage aussi à Bernadette Lizet, auteur du livre intitulé Le cheval dans la vie quotidienne, en 1982. Et puis j'ai cité ce livre qui s'appelle Le cheval à Paris, qui a été édité par l'Action artistique de la ville de Paris sous l'autorité de Béatrice de Handia, et à l'occasion d'une exposition qui a été proposée dans plusieurs lieux de la capitale en 2006. Je rappelle que les internautes peuvent écouter l'émission pendant un mois sur le site de France Culture et, s'ils le souhaitent, la balado diffusée. Samedi prochain, première de nos rediffusions d'été, nous retrouverons Robert Muchamblay et nous parlerons du XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, une sexualité libre, déjà, point d'interrogation.